Merci d'écouter RFI. Il est 21h30 à Khartoum et Paris, 19h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI. Arthur Ponchelet.
À la une des combats sanglants cette semaine au Soudan, un groupe pro-démocratie dénonce des attaques menées par les paramilitaires des forces de soutien rapide dans le centre du pays. Pas de bilan officiel, mais des sources locales font état de centaines de morts. On fait le point dès le début de ce journal. Le Ghana obtient le secrétariat général du Commonwealth. La ministre des Affaires étrangères du pays devient la deuxième dirigeante africaine à occuper ce poste. Sa fonction, Shirley Ayorkor-Botchwe, entend la dédier à la mise en place de réparations pour les victimes de la traite d'esclaves. Au sommaire également, nous irons au Mozambique où règne un calme relatif après des manifestations sur fond de contestation des résultats des élections générales. Et puis du sport et ce coup de tonnerre pour le Tour cycliste du Faso. L'événement emblématique a été retiré du calendrier de l'Union cycliste internationale. En cause, la participation à la course d'une équipe russe. On démarre donc ce journal au Soudan où les forces de soutien rapide, les FSR du général Emeti, sont accusées de se livrer à des massacres de civils. Des attaques ont eu lieu dans plusieurs villages de l'état de Guézira dans le centre du pays. Florence Maurice, les bilans humains sont difficiles à établir, mais des sources locales évoquent des centaines de morts.
La semaine a été sanglante dans cet état situé au sud de Khartoum. Parmi les villages attaqués, ceux de Al-Sahira et Azrak, selon le comité de résistance d'un village voisin, les paramilitaires des forces de soutien rapide y ont imposé un siège total aux habitants et multiplient les exactions contre les civils. L'accès au terrain est impossible et les communications sont coupées. Il est donc difficile d'établir des bilans, mais à en croire les listes de victimes diffusées par des habitants, rien qu'à Al-Sahira, on comptait déjà plus d'une centaine de morts ce matin et de nombreux blessés. Les attaques contre des civils dans cette zone ont débuté dimanche dernier et se multiplient depuis. Il s'agirait d'une opération de représailles de la part des RSF après que leur commandant régional a décidé de faire défection pour rejoindre l'armée régulière. Selon le syndicat des médecins soudanais, le degré de violence est tel que les opérations de sauvetage pour venir en aide aux blessés sont devenues impossibles. Le syndicat appelle les Nations Unies à faire pression pour obtenir la mise en place de couloirs humanitaires vers des villages sûrs.
Florence Maurice, les membres du Commonwealth viennent de désigner une nouvelle secrétaire générale et elle vient du Ghana. L'actuelle ministre des Affaires étrangères du pays devient la deuxième dirigeante du continent à accéder à ce poste. Shirley Ayorkor-Botchwe débute donc un mandat de 4 ans, une fonction qu'elle a notamment décidé de dédier à la question des réparations de la traite d'esclaves. Victor Cariou est à Accra pour RFI.
Shirley Ayorkor-Botchwe porte une vision d'inclusivité et de progrès qui, je le sais, inspirera la famille du Commonwealth. Voici la réaction du président ghanéen Nana Akufo-Addo au lendemain de l'élection de sa ministre des Affaires étrangères à la tête de l'organisation intergouvernementale. Elle succède ainsi à la diplomate britannique Patricia Scotland, première femme à occuper ce poste et devient, après le Nigeria, la deuxième représentante du continent africain au secrétariat général. Une fonction que Shirley Ayorkor-Botchwe entend donc dédier à la mise en place de réparations pour les pays victimes de la traite d'esclaves. Elle a par exemple plaidé ces derniers mois pour que les États membres du Commonwealth, dont plus d'un tiers sont africains, s'expriment d'une même voix sur le sujet. C'est d'ailleurs à Accra que, en novembre 2023, s'était tenu un sommet international pour la réparation de l'esclavage. Une question qui a fait l'objet de tensions entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies lors de ce sommet des chefs d'État du Commonwealth. Ce dernier s'est toutefois conclu ce samedi par une déclaration commune des 56 chefs d'État, le communiqué indiquant, je cite, qu'il était temps d'avoir une véritable et honnête conversation sur de futures réparations. Victor Cariou, Accra. RFI.
Le ministre des Affaires étrangères ukrainien est lui en tournée sur le continent. Après l'Angola, Andriy Sibiga était au Caire aujourd'hui où il a rencontré son homologue égyptien. Objectif de cette rencontre, promouvoir le plan de Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Correspondance au Caire d'Alexandre Bouchanti.
Le ministre ukrainien a exposé à son homologue égyptien le plan de Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Un exposé auquel l'Égypte a répondu en réaffirmant sa neutralité dans le conflit russo-ukrainien. L'Égypte est attachée à la souveraineté des États et à l'intégrité de leur territoire, a indiqué le ministre égyptien avant d'ajouter que l'Égypte estime qu'il faut remonter aux racines du conflit pour lui trouver une solution politique et diplomatique. Le ministre a aussi souligné l'impact négatif de cette crise sur les pays du tiers-monde et leur sécurité alimentaire. L'Égypte importe une bonne partie de son blé d'Ukraine. Toutefois, la Russie reste le premier fournisseur des 10 millions de tonnes de blé importées annuellement par l'Égypte. L'Égypte, qui est le plus grand acheteur de blé au monde et le plus grand consommateur de pain par habitant. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Et le ministre ukrainien des Affaires étrangères poursuit ce week-end sa tournée sur le continent. Il sera ce dimanche en Afrique du Sud. Retour au calme relatif au Mozambique. Des manifestations avaient éclaté jeudi dernier après l'élection controversée de Daniel Chapo. Le candidat du Frelimo, le parti au pouvoir, a été déclaré vainqueur des élections générales par la commission électorale. 71% des voix pour lui, loin devant les 20% du candidat du parti Podemos. Podemos, qui rejette les résultats, tout comme la RENAMO, le parti historique de l'opposition. Les deux formations politiques avaient appelé leurs partisans à descendre dans la rue pour dénoncer ce qu'ils estiment être une victoire volée. Christina Okello, quelle est l'ambiance sur place à présent ?
Alors que les magasins rouvrent et que les habitants tentent de reprendre leurs activités, les rues de la capitale Maputo portent encore les stigmates des violences de ces derniers jours. Partout, des pneus brûlés, des vitres brisées et d'autres débris jonchent encore les rues. Autre signe de cette instabilité, l'accès à Internet, perturbé depuis hier, reste limité. Une coupure qui viserait l'opposition. Le très connecté et candidat malheureux à la présidentielle, Venancio Mondlane, avait en effet encouragé ses jeunes partisans à se coordonner sur les réseaux sociaux pour paralyser le pays. Le Podemos et le RENAMO rejettent les résultats des élections générales du 9 octobre, dénonçant un processus qu'ils qualifient de biaisé en faveur de Frelimo. De son côté, l'Union européenne a émis des réserves quant à la transparence du décompte des voix et condamne la violente répression des manifestants après la mort d'une personne à Nampula, dans le nord-est du Mozambique. Un mort qui s'est produit lors d'affrontements entre manifestants et police. Plus de 300 arrestations ont déjà été signalé. Et malgré les risques des répressions, Venancio Mondlane a annoncé aujourd'hui qu'une troisième journée des manifestations débutera lundi.
En bref, au Sénégal, elle devait présenter son livre ce samedi à Dakar. L'autrice française Séverine Awenengo d'Alberto s'est exprimée aujourd'hui après l'annulation de l'événement par la librairie Aux Quatre Vents. L'idée de la Casamance autonome, possible et dette morale de la situation coloniale au Sénégal, c'est le titre du livre, a provoqué de vives protestations, notamment sur les réseaux sociaux. Le parti de l'Alliance pour la République a évoqué un livre dangereux pour l'unité nationale. L'ouvrage ne vise aucunement à rouvrir les fractures, comme certains pourraient le craindre, se défend son autrice dans un communiqué qui ajoute que les accusations alimentent un climat potentiellement dangereux pour sa sécurité. Et puis un mot de sport avant de refermer ce journal avec ce spectaculaire déclassement, le Tour cycliste du Faso, dont la 35e édition se dispute actuellement, est retirée du calendrier de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. En cause, Thomas de Saint-Léger, la participation à la course d'une équipe russe invitée par les organisateurs.
Sur ce point, le règlement de l'Union cycliste internationale est clair. Pas d'équipe russe ou bélarusse au départ d'une course UCI, mesure en vigueur depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a plus de 2 ans et demi et forcément connue des organisateurs du Tour du Faso. Ceux-ci ont pourtant convié au départ de la 35e édition de leur course le CSKA Moscou et son maillot floqué Russian Army, armée russe en français. L'UCI est mis au courant avant le départ de la première étape et demande immédiatement le retrait de cette équipe. Un courrier officiel est adressé. Il restera lettre morte. L'instance mondiale a donc pris hier la décision de retirer l'épreuve de son programme. D'autres mesures disciplinaires pourraient suivre. Et même si la deuxième étape s'est disputée normalement aujourd'hui, cette mise au ban du calendrier officiel pourrait avoir de lourdes conséquences. Course référence en Afrique, le Tour du Faso souffrait ces dernières années de la situation sécuritaire militaire du pays. L'édition 2022 avait même dû être annulée. L'épreuve survivait depuis sur sa réputation et sur le maintien du label UCI, indispensable à l'attractivité du Tour. Son avenir, aujourd'hui, s'inscrit en pointillé.
Thomas de Saint-Léger, du service des sports de RFI. Il est 21h, bientôt passé de 40 minutes, ici à Paris, 2 heures de moins en temps universel. Tout de suite, c'est Témoin d'actu sur RFI, avant de retrouver Baptiste Coulon pour le Journal International. Très belle soirée, à l'écoute de la Radio du Monde.